Chers camarades, c'est Marty qui vous parle depuis le Comics Bureau. Je suis heureux de vous accueillir dans la première partie de ce hors-série consacré à l'adaptation de Superman Red Son, la mini-série où Mark Millar et Dave Johnson faisaient atterrir Superman non pas au Kansas, mais dans l'URSS de Staline. Pour l'occasion, j'ai fait appel à un camarade de podcast, mais aussi historien, afin de traiter aussi bien du comic book que de son adaptation sous l'angle des passionnés d'histoire de super-héros comme de l'histoire avec un grand H. Devant la longueur de notre entretien, j'ai décidé de vous proposer cette émission en 4 parties distinctes. Vous découvrirez aujourd'hui la première qui traitera un peu de l'histoire des comics, puisque nous reviendrons sur les origines du concept des histoires imaginaires de DC qui apparaît dès les années 40, jusqu'au concept plus récent des Elseworlds, ce label qui présentait des histoires se passant dans d'autres réalités que l'univers DC classique et dans lequel avait été publiée en 2003 la mini-série Superman Red Son. Je m'excuse d'avance pour la qualité sonore qui laisse parfois à désirer. L'émission a en fait été réalisée il y a plusieurs mois et nous avons eu pas mal de soucis techniques durant l'enregistrement, ce qui explique la période assez longue entre son enregistrement et sa diffusion. Il m'a fallu du temps pour réussir à monter une version qui me satisfaisait d'un point de vue sonore par rapport aux conditions dans lesquelles nous l'avions enregistrée. Et sans plus attendre, direction une terre un peu plus à gauche de la nôtre dans le multivers. Bonne écoute à tous! Mes chers camarades amateurs de comics, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office Watching. Un Comics Office Watching un peu particulier, puisque nous traiterons d'une adaptation de comics, et ici un film animé, mais nous allons un petit peu plus accentuer cette fois-ci l'aspect politique autour de cette œuvre, puisqu'il s'agira aujourd'hui de décortiquer Superman Red Son. Pour m'accompagner dans cette émission signée, pour le coup, non pas Comics Office, mais plutôt Comics Bureau, pour rester dans le thème, pas de Jonath qui est resté caché dans son colcos de la bergerie dorée pendant cette période de confinement, mais un invité, à savoir Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Bah, très bien, merci, et toi ?
Très très bien, je suis ravi de t'accueillir pour ce numéro un peu particulier. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, pourrais-tu très rapidement te présenter ? Puis, comme à notre habitude dans cette émission, on te laissera un peu plus de temps à la fin pour détailler davantage tes activités sur le net.
Ben, je m'appelle Thomas, je suis professeur la plupart du temps et passionné de comics depuis l'adolescence. Et j'écris sur le site de Sonia, Comics Have the Power. Et je participe de temps en temps au GG History, le podcast. Voilà.
Oui, tu as eu ton baptême du feu du podcast récemment sur les GG History. On en reparlera à la fin. Et donc, tu dis que tu es professeur, mais est-ce que tu veux, alors sans trop dévoiler évidemment sur ton identité secrète, très très bien gardée, n'est-ce pas, hein, aussi bien gardée que la mienne, est-ce que tu veux détailler un peu quel est ton champ professoral ?
Je suis prof d'histoire géo, donc dans le thème, ça va, je maîtrise un peu. Et puis, ça fait presque 20 ans, je pense, quasiment 20 ans que j'enseigne dans la banlieue parisienne, dans ce qu'on appelle un collège REP+. Voilà.
Donc voilà, si je t'ai invité, c'est parce que comme moi, tu es enseignant d'histoire géo et que, vu la thématique, c'était intéressant d'avoir un autre point de vue que le mien. Surtout que la guerre froide, c'est une thématique que j'adore, notamment dans la culture, mais c'est pas non plus la thématique sur laquelle je suis le plus à l'aise. Moi, je préfère l'Antiquité et le Moyen-Âge et c'est pas vraiment ce qui est représenté le plus, malheureusement, dans les comics. Même si y a toujours des liens avec tout ce qui est figure héroïque, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai invité Thomas pour avoir un autre point de vue là-dessus. Et aussi pour un peu, entre, alors je mets des guillemets, historiens, hein, débattre un petit peu de ce qu'on a lu. Et puis évidemment, on va avant tout aussi regarder ça avec les lunettes du fan de comics. Alors, Superman Red Son, est-ce que tu avais déjà lu ce comic book avant de voir l'adaptation ?
Oui, je l'avais lu il y a assez longtemps et je l'ai relu pour l'émission. Ça fait partie des comics en fait qui m'ont reconnecté à l'univers en fait, parce que quand j'étais ado dans les années 90, j'ai arrêté et j'ai repris avec Ultimate et ensuite j'ai lu Red Son.
Ah, en plus Ultimate, on est totalement dans le ton puisque Red Son, c'est écrit par Mark Millar, hein, qu'on ne présente plus.
Enfin, on va quand même le représenter un peu pour ceux qui auraient oublié qui est cette personne, mais ça m'étonnerait quand même si vous êtes un peu lecteur de comics, puisque il est connu pour produire aujourd'hui pas mal de bandes dessinées adaptées au cinéma. On pense à Kick-Ass, avant ça à Wanted. Plus récemment, on a eu deux opus de The Secret Service qui s'appelle Kingsman, je ne trouvais plus le nom, au cinéma. Et pour ce qui est des héros un peu plus classiques, Millar a notamment fait parler de lui au début des années 2000 par sa reprise des X-Men dans l'univers Ultimate Marvel, donc cette branche qui réimagine de manière moderne les héros classiques. Et c'est surtout pour sa réimagination des Avengers sous le nom des Ultimates qui va se faire un nom auprès du grand public. Ultimates qui est un titre très politisé et la politique est au cœur de Red Son. Puisque Red Son, c'est aussi une histoire de Superman qui, à l'image des Ultimates, se passe sur une Terre parallèle. Alors ici, c'est sur une Terre totalement créée pour l'occasion, puisque dans cette mini-série en trois numéros, Mark Millar imagine ce que serait le monde si Superman n'était pas tombé au Kansas, si sa navette ne s'était pas écrasée au Kansas, mais en Ukraine dans les années 30, en 1938, il me semble. Et il est accompagné au dessin par Dave Johnson, accompagné par Andrew Robinson, Walden Wong et Kitten Plunkett. Alors pour l'ancrage et la couleur, je ne sais plus exactement qui fait quoi, je revérifierai tout à l'heure. Et comme je le dis, voilà, Millar se fait connaître au début des années 2000 pour ses récits, on va dire, alors, politisés, mais aussi un petit peu grande gueule, violent, trash.
Ouais, je disais que c'était ça, il aime bien, je pense qu'il aime bien rentrer dans l'art et donner un coup de pied dans les choses.
Voilà, alors ce qu'il y a, c'est que souvent, par contre, ça reste un petit peu faussement polémique. Hein.
Ouais.
C'est un peu over the top, c'est un peu, ça peut être un peu vulgaire. Pour avoir une bonne comparaison, il suffit de lire son run sur The Authority, qui prédate celui sur Ultimates. On a Warren Ellis qui, en fait, crée un peu le prototype de Ultimates avec The Authority. Puis, au bout de 12 numéros, il est remplacé par Millar. Et même si Millar reste dans l'affiliation de Warren Ellis avec The Authority, c'est une équipe de super-héros proactifs, interventionnistes, politiquement impliqués. Ils estiment que les gouvernements ne remplissent pas leur rôle pour sécuriser le monde. Et ils décident, eux, de s'instaurer comme l'autorité qui veille sur le monde. Et lorsque Millar remplace Ellis, il reste dans ce ton politique, mais en étant un peu plus sarcastique et du sarcasme un peu cradingue. Hein. C'est même parfois un peu pipi-caca, même.
Il est très sarcastique, mais il tombe des fois dans le cynisme, en fait.
Oui, dans le cynisme et la surenchère. Ouais.
Ouais.
T'as bien aimé The Ultimates ou pas trop ?
Alors, je ne l'ai pas relu depuis que je l'avais lu il y a très longtemps, mais à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Mmh. J'avais trouvé que ça, par rapport à ce que j'avais lu à dos, ça apportait vraiment un vent de fraîcheur et une modernité. Donc, oui. Ultimate, j'avais vraiment bien aimé.
Il a écrit deux volumes d'Ultimate, c'était signé par Brian Hitch. Et c'est bon, ça remet dans le contexte de l'époque. Hein, c'est de l'Amérique de Bush, post-11 septembre, etc. Mais il y a encore plein de thèmes abordés dans cette œuvre qui retrouvent un écho aujourd'hui. Ça reste, certaines problématiques restent assez intemporelles et universelles. Mais j'aimais bien aussi parce que même s'il y a des petits moments un peu over the top, ça restait quand même bien maîtrisé, ça partait pas non plus trop dans le vulgaire. D'ailleurs, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, doit beaucoup à The Ultimates, notamment dans la façon dont les Avengers se constituent, etc. Nick Fury qui ressemble à Samuel Jackson, etc., etc.
Dans mes souvenirs, j'avais bien aimé son Thor, en fait.
Oui.
Qui était, on ne savait pas si c'était un dieu. Et je trouvais que ça, dans le début, je trouvais que c'était très intéressant.
Ouais, jusqu'au bout, il y a un doute. Est-ce que c'est un dieu ? Est-ce que. Alors, il y a une explication qui est avancée. On ne vous révèle pas laquelle. Est-ce que c'est un peu des deux ? Il reste très flou là-dessus. C'était une très bonne idée. Ouais. Il a aussi beaucoup marqué les esprits par son Captain America qui est totalement aux antipodes du Cap qu'on connaît. Hein. Le Cap qu'on connaît, c'est quand même un peu le doux rêveur. Et. Il a quand même l'air d'être écrit plutôt comme un démocrate, alors que là, on avait le Yankee républicain de base, mais qui est quand même plus nuancé que ce que laisse croire la fameuse case du « il n'y a pas écrit la France là » quand il montre le A sur son masque lorsque un ennemi lui demande de se rendre. C'est d'ailleurs une scène qui avait beaucoup choqué à l'époque. Je pense que tu dois t'en rappeler de ça. Hein.
Comme je t'avais dit, c'est le moment où je reprenais les comics. Ah, donc oui, je ne l'ai pas lu en direct, donc je ne peux pas te dire à combien de temps c'était par rapport à la sortie. En fait. C'était juste, je partais à la bibliothèque. Et puis je me dis, tiens, je lisais beaucoup de franco-belge à l'époque, tiens, je me dis, bah, je vais revoir dans le rayon des comics qu'ils ont. Mmh. Et vraiment, au pif, bah, j'ai pris ça, je me dis, tiens, les dessins sont jolis, et hop, tiens, allons-y, quoi. Donc, aucune idée si c'était sorti il y a un an, il y a 6 mois, aucune idée.
D'accord. Et toi, ça t'avait choqué, toi, cette fameuse case, il n'y a pas écrit la France là ou...
Non, je suis pas quelqu'un de nationaliste, donc accepter que la France a perdu la guerre malgré De Gaulle, ça me choque pas.
Oui, et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que de un, c'était ben, le personnage de Captain America est montré comme, j'allais être un peu vulgaire, un gros, j'allais dire un gros con, mais un gros bœuf ou un gros bourrin. Mais en plus, ce qui est très rigolo, comme souvent dans les polémiques, les gens oublient de dire que dans, ça c'est dans l'épisode 11, et que ensuite dans l'épisode 12, quand Fury lui dit, ah, oh, super cette réplique, ben Cap montre un peu des remords et dit qu'en fait, il est peut-être allé un peu trop loin. Donc, comme souvent dans les polémiques, les gens ne retiennent que ce qui les arrange, et surtout. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que de 1, Captain America, à ce moment-là, c'est un soldat qui vient de se réveiller. Ça fait que quelques mois qu'il est de retour dans le monde normal. Il vient quand même de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est les historiens qui vont parler. Les Français étaient quand même vus comme les lâches qui avaient perdu rapidement la guerre et qui collaboraient. Donc, autant dire que c'est ce que pensait l'Américain moyen du Français. Et pourquoi, depuis avant, je m'attarde autant sur les Ultimates? C'est pour donner une particularité de Mark Millar. Est-ce que tu connais sa nationalité?
Il est écossais.
Exactement, il est écossais, il n'est pas américain. C'est pour ça que déjà dire de lui
Et
que c'était un
puis
pro-américain, c'était un peu ignorer
même, je
ça.
dirais qu'il n'est pas anglais. Il a une mentalité de gauche. Et justement, ce côté cynique, un peu moqueur, bah, c'est typiquement une mentalité un peu écossaise, quoi.
Oui, tu as tout à fait raison. Bah, d'ailleurs, Millar lui-même, alors j'avais une fois entendu quelqu'un qui disait que lui-même se définit comme quelqu'un qui est socialement à gauche. Mais économiquement un peu plus à droite, hein, c'est un peu un social-démocrate ou je ne sais pas trop exactement comment le qualifier, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est important de dire que oui, il n'est pas américain, donc il n'est pas pro-américain ou il n'a pas d'agenda politique ou ce genre de choses. Et comme tu fais bien de le mentionner, il n'est même pas britannique. Hein. C'est pas un Neil Gaiman ou quelqu'un qu'on imagine. Alors je caricature un peu raffiné comme ça, c'est plus la caricature de l'Écossais un peu plus bourrin. Voilà, c'est ce qui le distingue peut-être de certains de ses compatriotes qui travaillent aux États-Unis. Et c'est important de le mentionner, ça, qu'il est écossais, puisqu'on parle quand même là, je reviens à Red Son, d'une œuvre où Superman, le symbole des États-Unis, devient représentant de l'URSS. Et c'est intéressant d'avoir un œil européen, et même plus qu'européen, britannique, parce que ça aurait été un Français ou un pays où on a déjà eu la gauche au pouvoir, peut-être qu'on aurait eu encore un autre regard, mais je pense que c'est une nuance qu'il faut avoir en tête. Ça m'intéresserait beaucoup aussi de voir un jour un Américain écrire ce type de récit. Mais bon, qui sait, ça viendra peut-être un jour.
Je suis même pas sûr s'il oserait en fait.
Je sais pas, ouais.
Mettre en avant un héros communiste, je sais pas si c'est. Bon, on parlera
Oui.
de ça dans des exemples. Les héros communistes dans les mainstream et pas en avant en fait. Ces personnages secondaires, positifs ou négatifs, mais ils sont pas forcément au premier plan. Et je pense qu'il fallait un Européen pour faire ça.
Ouais, je pense aussi, oui. Alors en fait, ce projet aboutit avec la sortie de la mini-série en trois parties en 2003, mais c'est quelque chose que Millar avait en tête depuis un moment. Il explique que dès les années 90, il y pensait déjà, depuis 92 exactement. Il avait une histoire un peu plus classique en tête, puisque là, on devait garder un Clark Kent, qui s'appelait pas Clark Kent, qui était reporter, alors non pas pour le Daily Planet, mais pour la Pravda. Tu connais la Pravda, je pense?
C'était un peu l'organe, enfin le journal officiel du Parti communiste soviétique. Donc, bah, c'était pas vraiment des journalistes, mais plutôt des agents de la propagande. Surtout qu'en plus dans l'histoire, il n'est pas juste tombé en URSS, il est aussi militant communiste. Et donc, s'il avait été journaliste, il aurait forcément travaillé totalement différemment.
Ouais, l'histoire aurait été assez différente et aurait été plus proche aussi du Clark Kent Superman qu'on connaît. En plus, on sent, alors qu'on lit un peu le pitch que Millar a révélé, on sent qu'on était pile dans directement à l'époque où l'URSS chute. Hein. On rappelle que la fin de l'URSS, c'est 91, puisque là, il était question que ce soit les États-Unis qui se séparent avec la Géorgie et la Louisiane qui demandent leur indépendance. Il avait quand même une histoire assez différente de ce qu'on a eu finalement, mais avec déjà d'autres éléments qu'on a retrouvés, comme Batman et Green Lantern qui étaient présents. Et en fait, quand on dit que Red Son est une œuvre écrite par Mark Millar, c'est pas tout à fait vrai. Alors, il y a une anecdote qui maintenant est très connue. Est-ce que tu sais quel autre scénariste a travaillé un peu en sous-marin sur la fin de Red Son?
Bah non, je savais pas du tout. Je pensais qu'il avait écrit tout seul dans son coin.
Alors, il l'a écrit tout seul, hein, mais il y a un autre écossais, un grand scénariste écossais, qui lui a donné un petit coup de main parce que Millar n'arrivait pas à terminer son histoire. Est-ce que tu connais un autre grand scénariste écossais?
Bah, j'ai une idée, surtout qu'ils ont été amis à un moment ensemble, donc je pense que
Oui.
c'est Grant Morrison.
Exactement. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Tu dis ils ont été amis ensemble, ils ont été amis tous les deux à un moment. Pourquoi tu dis ça? Tu sais quelque chose là-dessus?
J'ai des collègues des GG qui sont bien plus calés là-dessus, mais je sais qu'ils se sont fâchés, enfin, un moment, je crois que ça s'est calmé, mais ils se sont fâchés tous les deux. Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre, ça, le contexte, c'est pas plus.
Eh bien, justement, il me semble, alors là, à vérifier, mais il me semble que c'est à cause, ou du moins en partie à cause de cette fin. Marc Millar ne savait pas comment terminer le récit. On reparlera tout à l'heure des éléments qui sont un peu plus spoilers, on reviendra dessus beaucoup plus tard. Il ne savait pas comment finir cette histoire, et c'est Grant Morrison qui va lui souffler l'idée de comment finir l'histoire, et il me semble que la brouille entre les deux trouverait leur origine dans le fait que Morrison n'ait pas été crédité, à vérifier, mais il me semble que ça a joué dedans. D'ailleurs, à l'époque, oui, les deux avaient travaillé ensemble, ils avaient écrit Skull Kill Crew, par exemple, chez Marvel. Donc, cette histoire, à l'époque, de Superman Red Son, il faut quand même parler d'elle, alors déjà... C'est vrai que c'est marrant quoi, Superman, le symbole de l'American Way, hein, son slogan c'est quand même la vérité, la justice et le modèle américain. Dans la tête des gens, à l'image, comme Captain America d'ailleurs, les gens voient un peu Superman comme un boy scout qui est soumis aux idéaux américains, alors que y a pas plus faux comme raisonnement. Hein, généralement Superman au contraire c'est plus un citoyen du monde, hein, lui il veut la paix dans le monde, il œuvre pour le bien de tous, et c'est pas du tout un gros réac, hein. C'est l'immigré ultime Superman, donc il n'y a rien de plus faux oui. que de penser ça.
Puis dans ses premiers épisodes, il est écrit déjà par deux auteurs juifs, et dans ses premiers épisodes, il est le défenseur du peuple, quoi. Tout à fait. Et c'est par la suite que on a un peu gommé cette origine politique du personnage pour en faire le défenseur des personnes. Voilà, globalement. Mais au départ, il est clairement le défenseur des pauvres.
Ah, de la veuve et de l'orphelin et de l'ouvrier. Je sais plus si c'est dans Action Comics 1 ou 2. Alors là, je dis ça de tête, hein. J'ai pas vérifié, mais de tête, dans un des premiers numéros d'Action Comics, il y a le patron d'une mine, il me semble, qui veut pas payer ses ouvriers ou pas assez, et Superman va aller corriger le patron. On en est quand même, dans les premiers épisodes, il s'occupe des injustices sociales, il défend, il me semble, dans un épisode, une femme qui se fait battre par son mari. On a vraiment un Superman social, et on raccroche un peu avec les wagons. Quand Grant Morrison, en 2011, reprend Action Comics, il veut revenir vers ce Superman un peu plus proche du peuple, social, qui a la rage, quoi, qui veut plus de justice sociale. Et il me semble d'ailleurs qu'au tout début, enfin au tout début, au moment où on a inventé le slogan « Vérité, justice », il me semble qu'à la base, son slogan c'était « Vérité, justice et tolérance » et que c'est devenu « American Way » par la suite. Les grands spécialistes, on attend vos messages. Et donc, comme tu le dis, avec le temps, suite à la Seconde Guerre mondiale, aux élans de patriotisme à ce moment-là, suite à l'interférence des éditeurs, puis d'autres scénaristes et dessinateurs, puis via le McCarthyisme, etc., Superman va quand même un peu plus rentrer dans le rang. Surtout que très rapidement, on va avoir le show radio, le dessin animé, puis les sérioles au cinéma, suivi de la célèbre série avec George Reeves dans les années 50. Forcément, pour ainsi avoir ce décalque de Superman sur plusieurs supports, bah, il fallait un peu qu'il rentre aussi dans les mœurs. Hein. On pouvait pas avoir un Superman révolté contre l'establishment. C'était pas très vendeur. Et Superman a aussi une particularité, c'est que chez DC... C'est le personnage, l'un des personnages, si ce n'est le personnage, qui a eu justement, et ce dès le début, le plus de déclinaisons alternatives. Est-ce que, hormis ce Superman communiste, tu connais d'autres Superman alternatives ?
De mémoire comme ça, non, ça ne me vient pas d'idée. J'ai sûrement lu des épisodes gamins où tu voyais d'autres mondes, mais là, de mémoire, je ne suis pas capable de le dire.
En fait, Superman a eu de nombreux doubles qui viennent d'autres univers. Hein. Le plus connu, tu le connais peut-être, c'est Ultraman, le Superman méchant de la Terre 3. On a eu plusieurs versions différentes aussi de Overman, qui est le Superman nazi, que ben, justement Grant Morrison réutilise, il me semble, dans Multiversity. On a eu comme ça tout un tas de Superman différents. Et de manière générale, dans les comics de Superman, va se développer, en particulier à partir des années 50, et ça a explosé dans les années 60, ce qu'on appelle les imaginary stories, les histoires imaginaires, c'est-à-dire les histoires où ouvertement on nous dit, bon, bah, cette histoire se passe dans un autre univers. Ça peut être alors des versions alternatives du présent, hein, Superman qui en fait est méchant et affronte Super Luthor. Ça peut être Superman qui invente, il y a la fameuse histoire où il invente une machine qui va le diviser en deux, en Superman rouge et bleu, l'un vivre avec Lois, l'autre avec Lana. On a les histoires qui se passent sur le futur, qui montrent les aventures de Superman Junior et Batman Junior. Superman est très coutumier de ces histoires imaginaires, qui tournent très souvent autour de Lois qui redécouvre son identité secrète, ou ses pouvoirs qui déconnent, ou ce genre de choses. Et en fait, dès les années 40, on va très tôt avoir des histoires imaginaires, puisque, si je dis pas de bêtises, c'est en 1940 qu'on a droit, dans le magazine Look, le 27 février exactement, on a droit à une histoire de Jerry Siegel et Joe Shuster, les créateurs du personnage dont je parlais avant, où Superman va battre Adolf Hitler et Joseph Staline. Et il va les emmener devant la Société des Nations, il me semble, pour qu'ils soient jugés. Ça peut paraître étrange, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi en 1940, Staline et Hitler auraient été jugés tous les deux ?
Parce qu'en fait, à l'époque, ils venaient signer le pacte germano-soviétique. Et donc, ils s'étaient entendus pour ne pas se faire la guerre dans le cas où l'un des deux entrait en conflit.
Exactement.
Et donc, vu du côté des Américains, ils étaient alliés.
Voilà, le fameux pacte de non-agression. Et en plus, les Soviétiques étant communistes, on n'a pas attendu la guerre froide pour que l'URSS ait mauvaise presse du côté des États-Unis. Alors, comme tu dis, à ce moment-là, on a le pacte. Les États-Unis, d'ailleurs, ne sont pas encore en guerre. Il faut attendre Pearl Harbor et 41 pour que les États-Unis entrent en guerre. Et d'ailleurs, dès 42, on va avoir droit à d'autres histoires imaginaires, comme Action Comics 52 et Batman 12, où on va voir, dans l'un, Superman et dans l'autre, Batman, se retrouver dans une Amérique qui est tombée aux mains des nazis. Mais c'est vraiment à partir des années 50 qu'on aura les histoires imaginaires avec le sceau, histoire imaginaire. D'ailleurs, DC, et je fermerai là la petite parenthèse sur les années 40, DC considère que leur première vraie histoire imaginaire, c'est Superman 19, qui est où on imagine que le fameux dessin animé des frères Fleischer qu'on connaît, dessin animé qui commence par plus rapide qu'une locomotive, et nanana, c'est un comics qui parle de ça, où suite à la vision de ce dessin animé, Lois va découvrir l'identité de Superman. C'est un peu tiré par les cheveux. Et donc, ces histoires imaginaires, elles durent jusque dans les années 80, et elles vont s'achever avec une très célèbre histoire en deux parties, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Je ne sais pas si tu l'as lu, cette histoire.
Alors, le titre me dit quelque chose, mais là, tout de suite, je ne vois plus. Il faudrait que tu m'aides.
Et si je te dis que cette histoire en deux parties, publiée dans Superman 423 et Action Comics 583, est dessinée par Kurt Swan, grand dessinateur du mythe Superman, et surtout écrite par Alan Moore, est-ce que là, ça t'aiguille un petit peu ?
Ouais, donc j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Je lis quasiment exclusivement en français.
Ouais.
Et je ne sais pas si elle a été éditée récemment. Peut-être dans un.
Si, si.
Une anthologie ?
Elle a été éditée. Alors, en fait, elle a été éditée. Alors, je ne sais pas si dans les années 80 elle avait été éditée, ça, je n'ai pas vérifié. Par contre, dans les années 2000, quand Panini avait les droits, ils ont édité le recueil d'une anthologie sur Alan Moore, où figurait, sur les héros d'ici par Alan Moore, où figurait ce diptyque. Et Urban, il y a peut-être 2 ans de ça, a sorti ces 2 épisodes à part dans un volume. Alors, ils ont dû appeler ça Les Derniers Jours de Superman, ou Superman par Alan Moore, ou quelque chose comme ça. C'est donc Alan Moore qui imagine que pourrait être une fin possible pour le Superman classique de Terre 1 avant Crisis. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà. Et si Crisis n'avait pas eu lieu, comment le Superman de Terre 1 aurait terminé ses jours ? Et c'est pas mal. Faut connaître un petit peu le lore de Superman, parce que ça invoque beaucoup d'alliés et d'ennemis. Il y a vraiment tous les alliés de Superman qui sont réfugiés dans la forteresse de solitude pendant que Lex Luthor et Brainiac guide tous les ennemis classiques de Superman pour combattre le héros. Enfin, c'est un morceau d'histoire à lire, et c'est officiellement la dernière Imaginary Story jusqu'à 1989, où un label est carrément créé pour éditer des one-shots et des mini-séries qui se passent dans d'autres univers. Est-ce que tu connais ce label ?
Non.
Alors, c'est un label qui s'appelle Elseworld. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Ah ça, oui, ce terme-là. Mais je pensais que ce terme-là, c'était, comment dire ça, une catégorie de récits. Je savais pas que c'était le nom d'un label de DC.
Alors, en fait, par abus de langage, on a tendance à appeler maintenant tous les récits DC qui se passent hors continuité des Elseworlds, même lorsqu'ils ne font pas partie du label. À la manière de, chez Marvel, on avait la fameuse série What If, et toujours on a tendance à dire que dès que, donc What If, littéralement, et si Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques, et si, nanana, voilà, on a les What If chez Marvel et on a les Elseworlds chez DC. label qui est créé en 89 avec une première histoire de Batman, une histoire très célèbre, Gotham by Gaslight, qui imagine un Batman qui vivrait au 19e siècle à Londres et qui affronte Jack l'Éventreur. On a eu d'ailleurs récemment, c'était l'an dernier il me semble, une adaptation chez DC en dessin animé.
Ouais, qui était très très bien.
Elle était sympa, ouais. Et alors ça, Gotham by Gaslight, hein, vous pouvez le trouver. Alors en occasion, il y avait la version comics USA où le titre était un peu bizarre. Le titre, c'était « Appelez-moi Jack ». En même temps, Gotham par Gaslight, les Gaslight, c'est donc les lampadaires à gaz de l'époque. C'est un peu compliqué à traduire. Hein.
C'est moins joli en français, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Batman sous la lumière des lampadaires, ça fait pas, c'est pas vendeur.
Ouais, et en plus, imaginez Batman dans les rues de Londres au 19e siècle sous les lumières d'un lampadaire. J'ai pas l'impression qu'il cherche à faire régner la justice, quoi. J'ai plutôt l'impression qu'il cherche autre chose. C'est sorti chez Panini sous le nom Gotham au 19e siècle et Urban l'a ressorti sous le nom Gotham by Gaslight. Alors il y a la version avec le DVD et si vous cherchez une version privilégiée, celle d'Urban, parce qu'on y a rajouté la mini-série Master of the Future qui est en fait une suite que jusque-là on n'avait pas eu par. Et cette ligne va exister pendant 21 ans puisque officiellement le dernier Elseworld qui est sorti, c'est la mini-série Superman The Last Family of Krypton. Qui est un Elseworld où en fait Jor-El et Lara vont carrément sur Terre avec Superman. Et ils n'envoient pas juste Kal-El sur Terre, quoi. D'ailleurs, dans les Elseworlds, de manière générale, très souvent, les Elseworlds jouent un petit peu sur les origines. Que ce soit pour Superman ou Batman, on a droit... Alors, on a eu quelques Elseworlds en français, on ne les a pas tous eus. Le plus connu, c'est Kingdom Come, sûrement. Histoire où Mark Waid imagine que serait le futur de DC. On a JLA Le Clou et puis sa suite, où en gros, encore une fois, ça, c'est assez marrant et ça se rapproche un peu de Red Son, puisque là, on imagine que se serait-il passé si les époux Kent n'avaient pas pu, le jour où ils ont trouvé Superman dans le champ, bah, ils n'ont pas pu quitter leur ferme parce qu'ils avaient un pneu de leur camion crevé à cause d'un clou. Et du coup, Superman est recueilli non pas par des communistes, mais par des Amish. Et on découvre que devient cette terre-là. Ça s'est sorti chez Panini, hein, je vous conseille. On en a eu, alors juste comme ça, j'évoque quelques Elseworlds notables. Hein. On a toujours chez Batman, on a la trilogie de Batman Vampire. On a la malédiction qui s'abattit sur Gotham, où Mike Mignola, le papa de Hellboy, imagine ce que ça donnerait si Batman rencontrait les créatures de Lovecraft. Il y a l'incroyable Batman à naissant de Paul Pope, que j'adore, qui est une superbe histoire qui se passe dans le futur et graphiquement. Alors, Paul Pope, on aime ou pas, mais graphiquement, je trouve ça extraordinaire. Et si tout va bien, parce qu'en ce moment, quand même, le calendrier est un peu perturbé pour les sorties comics, Urban va enfin sortir The Golden Age de James Robinson. Et je ne sais pas.
Ah, j'ai vu ça. Ouais.
Ouais, je ne sais pas si tu connais The Golden Age.
Non, je connais pas, mais ça me donnait très envie parce que c'est pas Paul Ryan ou comment ça s'appelle Davis, Davis qui serait au dessin, je sais plus.
Davis était sur le clou.
Ça me donnait très envie.
C'était Paul Smith. Les...
Voilà. Ah oui, c'est Paul Smith, ouais. Et ouais. Et justement, je l'ai découvert sur les X-Men.
Ah oui,
et j'avais adoré et je me dis mais tiens c'est bizarre, il a rien fait depuis. Et quand j'ai vu les nouvelles d'Urban, j'ai vu ah ouais c'est Paul Smith, bon bah, je veux voir ça.
Et bah, je te conseille de te jeter dessus, c'est vraiment j'ai jamais compris pourquoi ce récit était inédit en VF. Et vous allez voir, ça se rapproche un petit peu de Red Son, parce que en gros c'est la JSA, la Justice Society of America, qui dans les années 50 doit cesser ses activités à cause du McCarthyisme. Alors tiens, je vais faire appel au prof d'histoire qui est en toi. Peux-tu expliquer ce que c'est le McCarthyisme et surtout en quoi c'est lié à Red Son?
Alors, donc on est en pleine période de guerre froide et les Américains ont peur des militants communistes ou de que les communistes américains deviennent des espions à la solde de l'URSS et déstabilisent le pays. Et il y a un député, je ne sais plus s'il était du Texas, enfin, en tout cas un député américain, McCarthy, qui utilise en fait cette paranoïa du communisme, pour devenir de plus en plus populaire. Et il crée des commissions pour épurer la culture, parce qu'en fait, d'après lui, c'est surtout dans la culture qu'il y a le plus de communisme, pour épurer la culture du communisme. C'est très connu du point de vue du cinéma, en fait, parce qu'il y avait énormément de scénaristes et quelques réalisateurs qui avaient des sympathies ou qui étaient clairement militants communistes. Ces commissions ont, en fait, complètement brisé leur carrière.
La fameuse liste noire. Si vous étiez inscrit sur la liste noire, vous ne pouviez plus travailler dans l'industrie. Alors, c'est pas le scénariste de Spartacus qui était sur liste noire et qui a dû écrire sous pseudonyme, il me semble.
Ouais. Alors Trumbo, je sais plus si c'est, je crois que c'est Dalton son prénom. Dalton Trumbo, en fait, c'est ça. Il était militant communiste et il a été dénoncé par ses pairs parce qu'en fait, ça aussi, ça a provoqué ça. Un autre réalisateur l'a dénoncé. Et tout la suite de sa carrière, il a dû écrire sous pseudonyme, dont, si je me souviens bien, Spartacus, parce que Stanley Kubrick, en fait, voulait à tout prix que ce soit lui qui écrive, et c'est lui qui a voulu qu'il écrive pour profiter de son talent, mais aussi lui permettre de continuer à vivre.
Ouais, c'est Dalton Trumbo, c'est bien ça, d'après le livre de Howard Fast. Parfois, même sous simple suspicion, on pouvait totalement perdre sa carrière, quoi. C'était assez terrible. D'ailleurs, récemment, je redécouvrais récemment que Albert Einstein a même eu des problèmes suite à des suspicions de connivence avec le communisme. J'en parle parce que si vous l'avez pas vu, il y a la série Genius que j'ai vue récemment c'était sur Amazon Prime, il me semble, qui revient sur l'histoire de Albert Einstein. Et même lui a subi les foudres du macartisme. Personne n'était épargné par cette psychose qui régnait sur l'Amérique à ce moment-là.
Oui, justement, je disais que c'est une période qui est très particulière parce que y a une paranoïa qui existe dans le pays et qui se retrouve justement dans un anticommunisme, mais qui se retrouve dans les comics.
Oui, totalement. On reviendra dessus tout à l'heure, mais les comics vont être imbibés de cet anticommunisme. Oui. Pour terminer rapidement sur les Elseworlds, j'ai fait un peu le tour. Il y en a deux, trois autres sortis en VF. Il y avait le crossover avec Planetary et la GLA. Il y avait une histoire assez peu connue, Batman Tarzan, qui était sorti chez Weta il y a une bonne quinzaine d'années de ça, qui est assez sympa. Et du côté de Superman, on a eu beaucoup, beaucoup de Elseworlds, mais ma liste n'est pas exhaustive, mais à part Red Son, j'ai pas l'impression qu'on en ait d'autres qui soient sortis en France. Et parmi les inédits des Elseworlds les plus emblématiques, on a les Batman Thrill Killer qui se passent pendant les années 60, la trilogie Superman Batman Génération où on voit Superman Batman et leurs descendants vieillir. En gros, c'est et si Batman et Superman étaient bien apparus au début des années 40 et s'ils avaient vieilli. On a GSA The Liberty Files qui revient sur les activités de la GSA durant la Seconde Guerre mondiale. Plus rigolo, les Justice Riders. En gros, c'est la GLA à l'époque du Far West. Et du côté de Superman, on peut noter Superman Last Son of Earth, où en gros, c'est Clark Kent qui est un enfant qui est envoyé depuis la Terre sur Krypton parce que la Terre explose. Donc voilà, encore une fois, une variation de ses origines. Ou aussi Superman Speeding Bullets. En gros, là, Superman n'est pas adopté par les Kent, mais par les Wayne. Et les Wayne sont assassinés, et puis Superman, suite à ça, devient Batman, en fait. On a tout un tas comme ça de Elseworlds. Alors que ce soit des Elseworlds qui jouent sur les origines, ou des Elseworlds, on en a un qui mélange Batman et Frankenstein, il y en a un qui mélange Batman et Superman et Frankenstein aussi. Il y a deux ou trois Elseworlds qui montrent les héros d'ici dans la guerre des mondes. On a vraiment tout un pan comme ça de l'univers d'ici qui, malheureusement, est encore inédit en VF. Comme Urban commence à sortir des Elseworlds par-ci par-là, on espère qu'on aura droit à un peu plus d'entre eux.
Ainsi s'achève notre première partie. On se retrouve dans une semaine pour la seconde, où il sera moins question de monde parallèle que d'une autre, puisque nous traiterons de la guerre froide et de son impact dans les comics. D'ici là, si vous cherchez quelques bonnes lectures en rapport avec le sujet du jour, je vous conseille de jeter un œil à l'article qui accompagne ce podcast sur notre site, où je vous ai mis une petite bibliographie sélective de différents recueils d'histoires imaginaires et autres Elseworlds sortis par DC, aussi bien en VO qu'en VF. Si vous passez sur notre site, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ou même carrément partager l'épisode autour de vous, c'est grâce à ça qu'on se fait connaître. Vous pouvez aussi nous contacter via notre adresse mail contact@comicsoffice.com ou encore sur les réseaux sociaux, on est actif sur Facebook et Twitter. À dans 7 jours, camarades!
Et si on pouvait voyager dans des mondes parallèles, la même Terre, au même moment, mais dans des dimensions différentes, Un monde où les Russes règnent sur l'Amérique. Où vos rêves de devenir une superstar se réalisent. Où San Francisco est une prison de haute sécurité. J'ai découvert le passage, les amis. Le seul problème, c'est de trouver un moyen de rentrer.